Soizic, vous revenez aujourd'hui sur les mesures prises par le gouvernement pour éteindre la mobilisation des agriculteurs et certaines d'entre elles vous laissent perplexe.
Eh bien oui Margot, parce qu'en effet, il y a des choses assez surprenantes. Alors reprenons. Pour soutenir les agriculteurs, eh bien les cordons de la bourse de l'État se sont déliés. En effet, face à la menace de cette jacquerie des temps modernes, eh bien l'État promet de distribuer quelques 400 millions d'euros. Alors aux éleveurs touchés par la nouvelle maladie épizootique, aux éleveurs agriculteurs bretons affectés par la tempête, à la filière bio en crise, aux viticulteurs victimes du dérèglement climatique et puis aussi pour soulager les charges fiscales et sociales des éleveurs. De plus, le gouvernement promet de mieux surveiller le respect de la loi Egalim, censée cette loi assurer un revenu décent aux agriculteurs, en particulier aux éleveurs bovins. Ça, c'est pour l'aspect financier. D'un point de vue politique maintenant, le gouvernement français se dit opposé à l'accord de libre-échange négocié par Bruxelles avec les pays du Mercosur. Il promet d'une part l'étiquetage de l'origine des produits agricoles et des ingrédients des produits alimentaires et l'interdiction d'autre part de la commercialisation de produits contenant des résidus de thiaclopride, un néocotinoïde interdit dans l'Union européenne depuis 2020. Enfin, sur le volet écologique, le gouvernement met sur pause le projet Ecophyto qui visait à réduire de 50% les usages de pesticides d'ici à 2030 par rapport au niveau de 2017. Il se dit également prêt à rediscuter des indicateurs et des zonages de traitement, quitte à attaquer les décisions des tribunaux administratifs qui auraient défini des zones de non-traitement dans des chartes départementales.
Et alors, que pensez-vous de ces mesures ?
Eh bien, les mesures concernant le revenu semblent plutôt positives, car on l'a beaucoup entendu, certains agriculteurs vivent avec moins que le SMIC, donc ça n'est pas raisonnable. Le problème, néanmoins, c'est qu'on en reste dans le quantitatif sans faire cas du qualitatif, puisque les deux tiers des subventions de la PAC sont fonction des surfaces. Autrement dit, la PAC incite à faire beaucoup plus plutôt que beaucoup mieux. Alors, outre cela, ce qui me semble aussi poser question tient au déblocage quasi immédiat de ces 400 millions d'euros. À l'heure des restrictions budgétaires annoncées par Bruno Le Maire, de la suppression de l'allocation de fin de droit pour les chômeurs, de l'obligation de travailler pour les personnes au RSA, soit dit en passant, très souvent très peu équipées culturellement, voire physiquement, pour intégrer le marché du travail, à l'heure où la franchise médicale augmente, même pour les plus pauvres, eh bien voyez-vous Margot, l'argent magique existerait encore pour celles et ceux qui savent le demander, mais avec de très gros sabots. Pour mémoire, les gilets jaunes, ce fut 17 milliards, un grand débat, des cahiers de doléances et une convention citoyenne. Pour les agriculteurs, 400 millions et une réglementation allégée à leur convenance. En revanche, pour le maintien de l'âge de la retraite à 62 ans, demandé, on le rappelle, dans le respect des règles de la civilité démocratique, nada, rien. Alors voyez-vous, je ne suis pas sûr que ce soit là un bon signal pour une démocratie apaisée.
Et alors vous pointez également du doigt le recul sur le volet environnemental.
Eh bien oui, parce que savez-vous qu'en 2023, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qu'on connaît mieux sous l'acronyme ANSES, a révélé la présence de chlorothalonil, excusez-moi, je ne suis pas experte phytosanitaire, dans environ un tiers de l'eau distribuée dans le pays. Ce fongicide a été utilisé en agriculture en France depuis les années 70 et interdit en Europe depuis 2020. On voit donc là la permanence d'un produit dans les nappes phréatiques. Ce qui a fait, par ricochet, qu'aujourd'hui, Vittel, Contrex et par Perrier et Saint-Yor pratiquent depuis de nombreuses années des traitements totalement interdits pour décontaminer les eaux de sources réputées et vendues comme pures et donc non traitées. C'est une enquête conjointe du Monde et de Radio France qui nous en informe cette semaine. Alors certes, les phytosanitaires ne sont pas les seuls responsables dans la pollution de l'eau, mais tout de même, certains de ces produits sont bel et bien des polluants éternels issus de l'agriculture intensive. Alors dans la résolution de cette crise, nous sommes donc face à nouveau au dilemme emblématique de notre mode de fonctionnement. Des emplâtres pour cacher la misère, mais aucun projet systémique d'envergure et de long terme. Les gouvernements donnent des os à ronger au chien qui aboie le plus fort, tant pis si le reste de la meute crève de faim ou meurt empoisonné. En disant cela, bien sûr, je n'incrimine pas les agris. Et bien parce que pourquoi ? Parce qu'ils font comme ils peuvent et surtout comme on leur a dit de faire depuis 50 ans. Mais quand il s'est agi de transformer la Bretagne en première région agroalimentaire d'Europe, là, l'État a su se doter d'une politique de soutien ambitieuse. Mais pour réparer les bêtises qui ont été faites, on pense aux haies par exemple, qui ont été détruites de façon très très négative. Et pour sauvegarder une terre un tant soit peu vivable, aucun projet d'envergure, aucune vision à long terme. Alors nous avons peut-être le plus jeune ministre de tous les temps, mais nous avons aussi et surtout le plus conventionnel et le plus rétrograde en termes de justice sociale et sur les enjeux environnementaux. C'est quand même dommage.